Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse et divine consolation. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous en sommes à la question 9 du supplément de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, toujours dans le traité sur la confession, avec beaucoup de choses très importantes et intéressantes pour nous. La question 9 couvre les qualités de la confession. Donc, saint Thomas va se poser la question de savoir si la confession peut être simplement informe, est-ce qu'elle doit être intégrale? Quelles sont les qualités demandées par les maîtres et peut-être être faites par intermédiaire ou par écrit? Alors, voyons l'article 1 de la question 9, la confession peut-elle être informe? Alors, voyons un petit peu ce que dit saint Thomas d'Aquin sur ce sujet. Il n'est pas nécessaire à la confession qu'elle soit vivifiée par la charité. Bon, alors qu'est-ce que veut dire le terme informe? Bon, on parle d'un sacrement formé ou informé. Un sacrement formé, c'est un sacrement qu'on reçoit, qu'on ne peut recevoir qu'en état de grâce. On parle d'une, par exemple, d'une vertu formée ou d'une vertu informe. Une vertu formée, c'est une vertu qu'on pratique en état de grâce. Par exemple, la foi avec la charité. Si on commet un péché mortel, on n'est plus en état de charité. Donc on est en situation de ce qu'on appelle une on aura la foi toujours, mais une foi informe, c'est-à-dire non vivifiée, formée par la vertu de charité. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier dans la matière de sacrement, c'est qu'un certain nombre de sacrements sont des sacrements qu'on appelle les sacrements des morts. Ça veut dire que ce sont des sacrements qu'on peut recevoir en état de péché mortel. Il n'y en a que deux. Le sacrement de baptême, pour un adulte, et le sacrement de pénitence. C'est-à-dire qu'on peut recevoir ce sacrement en état de péché mortel, et bien sûr, si on a l'accusation, la contrition, la réparation de ses péchés mortels, eh bien, le bon Dieu, par le prêtre, va pardonner ses péchés et restituer la vertu de charité, et donc rendre de nouveau à la foi sa forme, c'est-à-dire la foi qui était informe sans la charité, va redevenir une foi formée par la vertu de charité. Donc, chacun est tenu à la confession des péchés mortels, dit saint Thomas. Or, si quelqu'un s'est confessé même en état de péché mortel, il n'est plus tenu de confesser à nouveau les mêmes péchés. Autrement, nul ne saurait jamais s'il s'est vraiment confessé, puisque nous ne savons jamais si nous sommes en vertu de charité, strictement parlant. Il n'est donc pas nécessaire à la confession qu'elle soit vivifiée par la charité. Donc, quelqu'un en état de péché mortel peut se confesser, doit se confesser, et s'il se confesse avec toutes les dispositions requises, il retrouve l'état de grâce. Voilà ce que dit saint Thomas. Donc, celui qui se présente au saint tribunal en mauvaise disposition n'est pas tenu dans la suite de renouveler sa confession, mais seulement de confesser ses mauvaises dispositions. Cependant, attention, il faut bien expliquer ce que veut dire saint Thomas. Si quelqu'un se présente au saint tribunal, au tribunal de la pénitence, sans contrition ou en cachant un péché mortel, ou sans aucun désir de réparer les conséquences d'un péché mortel, sa confession est invalide. Pourquoi? Parce que pour qu'une confession soit valide, il faut que la contrition, à savoir, c'est-à-dire la douleur des péchés commis, douleur qui doit être, rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué, qui doit être interne, qui doit être universelle, qui doit être souveraine, qui doit être supernaturelle, et qui doit être jointe au regret
pratique des péchés, c'est-à-dire le désir pratique, positif, d'éviter les occasions prochaines volontaires de péchés graves. Il faut également l'accusation, il faut accuser le nombre, l'espèce, les circonstances qui changent l'espèce du péché, et il faut accuser, il faut accepter aussi la réparation, pas simplement la petite réparation donnée par le prêtre, la pénitence donnée par le prêtre, mais aussi de réparer en dehors du confessionnal les choses qui doivent être réparées. Dans ce cas-là, le bon Dieu pardonne. Alors, deuxième article, la confession va-t-elle être intégrale ? Et est-ce qu'il faut accuser tous les péchés mortels commis depuis la dernière confession ? La réponse est évidemment oui. L'hypocrisie est un obstacle à la pénitence. Mais c'est l'hypocrisie qui fait partager la confession entre plusieurs personnes. Et parfois des gens qui vont se confesser à plusieurs prêtres, qui disent certains péchés à certains prêtres, et d'autres péchés à certains prêtres, à d'autres prêtres, pour la même confession en fait. À ce moment-là, la confession est invalide si c'est des péchés mortels. Pourquoi la confession doit être, dit saint Thomas, intégrale. Il est donc de toute nécessité pour la confession que l'on confesse tous les péchés graves dont on se souvient, sinon ce n'est plus une confession, mais un simulacre de confession. Je vous rappelle, on l'a déjà vu, qu'on n'est pas tenu d'accuser les péchés véniels. Parce que le péché véniel n'enlève pas la charité. Donc quelqu'un qui a des péchés véniels sur la conscience sans avoir de péché mortel sur la conscience est toujours en état de grâce. Cependant, il est bon d'accuser au moins globalement ses péchés véniels. Alors saint Thomas donne une comparaison avec le médecin. Pour les soins médicaux du corps, le médecin ne doit pas seulement connaître la maladie contre laquelle il doit donner des remèdes, mais toutes les particularités du tempérament du malade. Car une maladie s'aggrave du fait qu'une autre y est jointe et tel remède qui convient à l'une peut aggraver l'autre. Il en va de même des péchés. Un péché devient plus grave quand un autre s'y joint et tel remède qui convient à tel péché peut donner aliment à un autre quand l'âme est infectée de vices contraires. Donc, il est nécessaire que l'on confesse tous les péchés mortels commis depuis la dernière confession. Dernière confession valide. Si vous avez eu le malheur, par exemple, de commettre une confession sacrilège il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, et après vous continuez de vous confesser toutes les semaines, mais que vous n'avez jamais accusé cette confession sacrilège que vous avez commise, faite il y a 3 ou 4 ans, eh bien, toutes vos confessions, depuis la confession incomplète, la confession manquée, et la confession invalide, toutes les confessions subséquentes sont nulles. Il faut donc tout recommencer. Alors, peut-on faire une confession par écrit, par intermédiaire ou par écrit ? Donc, en principe, on doit la faire de sa propre bouche. C'est la confession de la foi. La confession de la foi se fait oralement. Ainsi, dit saint Thomas, pour la manifestation de conscience qui fait partie de l'acte du sacrement de pénitence, doit-on prendre ordinairement notre mode le plus usuel de manifestation de pensée, la parole personnelle. Les autres manières ne viennent qu'en supplément de celle-ci. Bon, cependant, il peut y avoir des cas spéciaux. Entre autres, des personnes qui ne parlent pas une langue. Le prêtre ne parle pas la langue du pénitent, donc le pénitent est parfois obligé d'utiliser un traducteur. Bon, c'est pas facile, j'ai eu des problèmes de ce genre quand j'étais au Mexique. C'est pas facile du tout, mais on peut confesser dans certains cas comme ça. C'est-à-dire que la personne qui se confesse parle dans sa langue, que le prêtre ne comprend pas, mais un traducteur va traduire systématiquement tout ce que dit la personne. Il se tourne vers le mur, la personne qui traduit se tourne vers le mur, et puis le pénitent va donner des réponses avec un simple signe de tête. Est-ce que vous avez fait telle chose ? Le traducteur va donner la traduction dans la langue comprise par le pénitent. Et le pénitent fait simplement un signe de tête ou montre avec ses doigts le nombre de péchés qu'il a commis. Bon, c'est pas très facile, mais c'est possible. On peut également, dans certains cas, accepter une confession par écrit. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. De personnes qui avaient trop de problèmes de scrupules de conscience, qui n'arrivaient pas à accuser correctement leur péché parce qu'ils rentraient dans trop de détails, donc ils me donnaient leur papier pour les confessions générales de retraite, par exemple, ils me donnaient leur papier, je lisais leur papier devant eux, papier sur lequel ils avaient inscrit tous leurs péchés commis depuis la dernière confession générale, et puis je lisais le papier. C'était bon, c'est suffisant pour que la confession soit parfaitement valide. Mais normalement, hors de ces cas exceptionnels, la confession doit être faite de bouche, c'est-à-dire parler. Alors, supplément à question 9, article 4, la confession exige-t-elle les 16 conditions que le docteur lui assigne ? Bon. Alors, ce sont des vers connus. Que la confession soit simple, humble, pure, sincère, fréquente, nette, discrète, faite de bon cœur, avec confusion, intégrale, secrète, dite avec larmes et non retardée, courageuse, accusatrice et en disposition d'obéissance. Bon, rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement ces 16 points, sinon la confession deviendrait quelque chose de très pénible. En effet, la sincérité, la complicité, la simplicité, la sincérité, la force sont par elles-mêmes des vertus et ne doivent pas être présentées comme de simples conditions de la confession. Alors, des conditions énumérées, quelques-unes sont de nécessité pour la confession et d'autres seulement de perfection. Alors, Saint Thomas explique que la confession doit être discrète. Donc, il prend certains de ces 16 points sur lesquels il a insisté davantage. D'abord, elle doit être discrète, puisque la prudence est requise dans tout acte de vertu, notamment concernant les péchés contre le 6e et 9e commandement. Le prêtre n'a pas besoin de savoir tous les détails. D'ailleurs, ça m'arrive souvent en confessionnal, lorsqu'une personne donne trop de détails dans ses péchés d'impureté, je vais leur dire, ça va, j'ai compris ce que vous avez fait, j'ai pas besoin d'autres détails. Bon, parfois, les gens me demandent, est-ce qu'il faut que j'explique davantage? Non, ça suffit. Du moment que le prêtre a compris ce que vous avez fait, il n'y a pas besoin d'autres détails. Il faut que la confession également soit faite par libre élection, c'est-à-dire que les actes de vertu se fassent, doivent se faire volontiers. C'est pour ça qu'on dit que la confession doit se faire de bon cœur. Elle doit être également, cette confession doit être pure, faite avec une intention droite. Elle doit être courageuse, afin que par honte, elle ne trahisse pas la vérité. C'est parfois pas facile pour certains pénitents d'accuser certains péchés particulièrement honteux. Je leur dis toujours, si vous n'avez pas eu honte de commettre le péché, n'ayez pas honte de l'accuser. La confession également doit être faite avec confusion, c'est-à-dire dans le sens de, avec une manifestation de la contrition intérieure, non pas en se vantant de ses péchés avec un sentiment mêlé de crainte mondaine. Elle doit aussi nous conduire à la douleur du péché commis, et c'est ainsi qu'elle doit être accompagnée de larmes, au moins intérieures. Elle doit aboutir à ce que le pénitent se méprise lui-même, c'est ainsi qu'elle doit être humble, le pénitent confessant qu'il est misérable et faible. Si on continue dans les détails, donc il faut également que la confession soit sincère, c'est-à-dire véritable, vraie, une confession nette, ne s'embarrassant point dans l'obscurité des mots, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de tromper le prêtre, cacher quelque chose au prêtre, j'ai vu ça fréquemment, surtout avec les jeunes, qui vont utiliser des termes d'argot espérant que le prêtre ne va pas comprendre, qui vont parler très vite pour en espérant que le prêtre ne comprendra pas, surtout quand ils se confessent à un prêtre étranger. C'est, le démon est un malin. Et donc il faut que le prêtre ait bien compris ce qui a été dit, au moins en général. Donc il faut que la confession soit simple, c'est-à-dire ne dire que ce qui intéresse la gravité des péchés. Parfois des gens vous racontent complètement toute votre vie, toute leur vie au tribunal de la pénitence. On n'a pas besoin des détails. Quand les gens commencent à raconter des choses qui ne sont pas des péchés, je les coupe. Voilà, moi écoutez ça, c'est pas nécessaire que je sache tout ça. Parlez-moi de vos péchés. Pour ce qui est de la confession, en tant qu'elle est partie du sacrement, elle doit tenir compte du jugement du prêtre qui est ministre du sacrement. Et à ce titre, elle doit être accusatrice. De la part du pénitent, il a fait en disposition d'obéissance au confesseur. Et secrète, étant donné la condition particulière de ce tribunal particulier où s'agitent les secrets de la conscience. C'est seulement affaire de perfection que la confession soit fréquente et non retardée, c'est-à-dire suivant sans délai la faute. Bon, on fait ce qu'on peut en fonction de la possibilité d'avoir un prêtre. C'est pas évident aujourd'hui, par les temps qui courent, d'avoir un prêtre. N'oubliez pas que le bon Dieu voit les intentions. Il lit à l'intérieur des cœurs choses que nous ne pouvons pas faire. Et donc, dans certains cas, malheureusement, certaines personnes ne peuvent pas se confesser pour certaines raisons, parce que il n'y a pas de prêtre, par exemple, à leur disposition, dans un rayon proche. Et bien, évidemment, dans un cas comme ça, le bon Dieu ne demande pas l'impossible. Mais s'il n'y a pas de prêtre, demandez la grâce d'un acte de contrition parfaite. Je vous rappelle que l'acte de contrition parfaite, le regret de ses péchés par amour de Dieu, efface tous les péchés mortels. Alors, quelle est la fréquence des confessions? C'est difficile de donner une règle générale. La règle générale que je donnerai est toujours la même, toute simple. Confessez-vous si vous êtes malheureux de tomber dans le péché mortel. Si vous tombez dans le péché mortel tous les jours, confessez-vous tous les jours. Si vous tombez dans le péché mortel toutes les semaines, confessez-vous toutes les semaines. Si vous tombez dans le péché mortel tous les mois, ben vous devez vous confesser impérativement après le péché mortel. Cependant, ordinairement, une fréquence normale, je dirais, c'est la confession une fois par mois. Sauf des personnes qui sont dans la situation où il y a beaucoup plus de tentations. Par exemple, les jeunes. Les jeunes 18-20 ans, je conseillerais beaucoup la confession hebdomadaire. Les personnes qui sortent, un jeune homme, une jeune fille qui sortent, qui pensent au mariage, mais qui se voient régulièrement, sont évidemment exposées à beaucoup de tentations et devraient se confesser au moins toutes les semaines. La règle, c'est vivez en état de grâce. Donc, si vous voyez que vous ne pouvez pas vivre en état de grâce, il faut vous confesser beaucoup plus souvent. Et le prêtre vous dira d'ailleurs, parce que c'est son travail, que peut-être que vous n'êtes pas en état de grâce parce que vous gardez une occasion prochaine volontaire de péché grave. Donc il vous aidera à changer ce qu'il faut changer. Voyons maintenant avec la question 10, l'effet de la confession. Alors, est-ce que la confession nous libère de la mort du péché? Voilà ce que dit saint Thomas. De même qu'on dit du baptême qui nous délivre de la mort, ainsi doit-on en dire autant de la confession. Donc le péché mortel, par son nom même, explique qu'il tue l'âme. C'est pour ça qu'on dit que c'est un péché mortel qui apporte la mort à l'âme. Donc la confession, l'absolution donnée par le prêtre, correspond à une véritable résurrection, résurrection de la mort, passage de la mort à la vie. On retrouve la vie spirituelle qu'on avait perdue par le péché mortel. Est-ce que cette confession nous libère de la peine du péché, c'est-à-dire des peines du purgatoire? Donc on en a déjà parlé en fait, on a déjà expliqué tout ça. Je vous relis ici ce que dit saint Thomas. Donc j'ai déjà expliqué avec saint Thomas d'Aquin que la confession enlevait la faute, mais pas forcément toute la peine du péché déjà pardonné, des peines de purgatoire. Cela va dépendre du degré de charité qu'on a au moment de la confession. Donc, si une personne se confesse avec un grand degré de contrition, eh bien, il peut obtenir la destruction de toutes ses peines du purgatoire. L'homme, dit saint Thomas, reste encore débiteur d'une peine temporelle médicinale destinée à le purifier, à le faire progresser. Cette peine, qui doit être soufferte au purgatoire par ceux-là même qui ont été libérés de la peine de l'enfer, n'est point solvable en cette vie par les seules forces du pénitent, mais par la vertu des clés. Elle est diminuée de telle sorte qu'elle devient proportionnée aux forces du pénitent qui peut dès lors se purifier en cette vie par la satisfaction. Chaque fois que vous faites pénitence volontairement, vous faites une petite pénitence, supportant joyeusement la chaleur, par exemple, par ces périodes de canicule, eh bien, vous enlevez de votre âme une partie des peines du purgatoire dues pour les péchés passés. La confession diminue la dette de peine en vertu même de la nature de son acte, auquel est jointe la peine de la honte. Et de là vient que plus on se confesse souvent de ses péchés, plus on diminue cette dette de peine. La confession est toujours un acte d'humilité. Le bon Dieu aime l'humilité. Donc, il faut bien comprendre que l'humilité ouvre la miséricorde du bon Dieu. La confession ouvre-t-elle le paradis? Se demande saint Thomas. Voilà ce que dit saint Thomas, c'est par la faute et la dette de peine que le paradis nous a été fermé. Comme la confession écarte ses obstacles, ainsi qu'on le voit par ce qui se précède, on dit donc avec raison que la confession ouvre la porte du paradis. C'est notamment le cas des personnes qui se confessent à l'article de la mort. C'est arrivé souvent, je m'est souvent arrivé, c'est une grande grâce d'ailleurs pour moi prêtre, d'avoir confessé des gens qui ont passé parfois très longtemps sans se confesser, et qui demandent à faire la paix avec le bon Dieu avant de mourir. Donc ils sont à l'hôpital, ils sont en train de mourir, et ils demandent à se confesser, ils savent parfois très bien ce qu'ils font, ils peuvent faire une bonne confession, et à ce moment-là, la confession, surtout si elle est jointe à l'extrême onction, va ouvrir complètement, totalement les portes du paradis à cette personne qui peut aller directement au paradis si elle a la grâce de vraiment regretter ses péchés, et surtout si le prêtre a pu en plus donner, par exemple, la bénédiction papale à laquelle est jointe une indulgence plénière, la personne peut éviter toutes les peines de purgatoire et aller directement au paradis. Cette confession nous donne donc l'espérance du salut. L'espérance de la rémission de nos péchés ne nous vient que par le Christ, et puisque par la confession l'homme se soumet aux clés de l'Église qui tiennent en vertu de la passion de Christ, on dit avec raison que la confession nous donne donc non seulement l'espérance du salut, mais même le paradis lui-même. Il faut bien comprendre ça. Alors une confession, se demande saint Thomas, une confession par formule générale, suffit-il d'effacer les péchés mortels oubliés. Bon. La règle, est-ce qu'il faut accuser tous les péchés mortels non pardonnés commis depuis la dernière confession. Bon. Mais il est bon de terminer chaque toutes les accusations, une fois que vous avez accusé vos péchés, avant de recevoir l'absolution du prêtre, vous lui dites, mon père, je m'accuse aussi de tous les péchés de ma vie passée. De tous les péchés de ma vie passée, surtout les péchés mortels que j'ai pu oublier. Et à partir du moment où vous oubliez un péché mortel, il est compris dans la confession, il est pardonné. Si vous cachez volontairement un péché mortel, c'est autre chose. Bon, la confession est invalide. Donc, le pénitent obtient donc son pardon et ainsi les péchés oubliés sont remis car il sera impie d'espérer un pardon partagé. Le bon Dieu pardonne tous les péchés du moment qu'on les regrette. La part de diminution de peine qui vient de la confusion accompagnant la confession ne se réalise pas pour le péché dont on n'a pas rougi spécialement devant le prêtre. Donc, simplement, faites attention. Parfois, les gens sont un peu scrupuleux sur le domaine, surtout les dames. Les femmes, donc, si vous êtes scrupuleux, ne cherchez pas à donner tous les détails au prêtre. Il n'y a pas besoin des détails. Il a simplement besoin de savoir ce que vous avez fait. Dès que vous avez expliqué, ça suffit. Il n'y a pas besoin des détails. Et puis, il y a parfois des gens qui veulent constamment répéter les péchés passés. C'est pas bon. Vous finissez votre confession simplement en disant, mon père, je m'accuse aussi de tous les péchés de ma vie passée. Et puis, vous pouvez éventuellement rajouter, si vous voulez, mon père, je voudrais m'accuser surtout de tels péchés que j'ai commis il y a longtemps, que j'ai déjà accusé plusieurs fois, mais dont j'ai une honte toute particulière, par exemple, tel péché. Alors, le pénitent, même s'il a reçu l'absolution, est cependant tenu de confesser le péché oublié afin de supplier à ce qui a manqué à la confession sacramentelle. Si vous êtes confessé, vous avez fait une bonne confession, et vous sortez du confessionnal, et puis vous assistez à la messe, au moment où vous êtes au bord de communion, en train d'attendre la sainte communion, vous vous rendez compte, zut, j'ai oublié un péché grave. Aïe, j'ai complètement oublié. Est-ce que je peux communier? Oui, vous pouvez communier tranquillement, parce que ce péché est pardonné. Cependant, à la prochaine confession, vous direz, mon père, la dernière fois, j'ai oublié tel péché. Donc, c'est pourquoi, dit saint Thomas, le pénitent, même s'il a reçu l'absolution, est tenu de confesser le péché oublié afin de supplier à ce qui a manqué à la confession sacramentelle. Alors, question 11 du secret de confession. Alors, c'est une chose qui doit bien être expliquée et comprise, surtout aujourd'hui. Il y a un combat terrible des ennemis de l'Église contre le secret de confession. Certaines personnes qui se prennent pour le bon Dieu, pensant qu'ils peuvent interdire aux prêtres l'usage du secret de confession, obliger les prêtres de parler de certains péchés en confession. Ce que je sais par secret de confession, dit saint Augustin, je le sais moins que si je ne savais pas du tout la chose. Hein? Donc dès que ça touche au secret de confession, c'est une connaissance qui n'a rien à voir avec la vie de tous les jours. Bon. Par exemple, ça va très loin, je vous donne un exemple. Imaginez que vous confessiez telle personne, une personne que vous connaissez peu, bon, elle se confesse à vous. Et vous avez toujours pensé que cette personne devait être une personne de grande valeur. Bon, puis vous découvrez, au moment de confesser cette personne, que cette personne que vous avez toujours pensé être une personne de grande valeur est finalement une personne qui n'est pas très recommandable, loin de là. Bon, il accuse beaucoup de péchés, donc vous faites votre travail, votre devoir d'état de prêtre, vous l'expliquez, vous donnez l'absolution s'il y a les trois conditions, de contrition, d'accusation, de réparation. Et supposez que quelques heures plus tard, quelqu'un vous demande, monsieur l'abbé, je voudrais vous poser une question à propos de tel jeune homme, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la personne que vous venez de confesser quelques heures auparavant. Eh bien, vous êtes obligé de dire, je pense que c'est quelqu'un de grande valeur. Bien que vous sachiez par la confession que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le droit d'utiliser les connaissances liées à la confession pour la vie de tous les jours. Donc, tout ce qui est dit en confessionnal, c'est comme, si vous voulez, je donne toujours ça comme exemple, imaginez que vous écrivez votre confession sur un papier blanc, ou vous écrivez votre confession sur un tableau blanc, par exemple, vous écrivez votre confession, le prêtre entend la confession, vous donne l'absolution, il prend un chiffon, il efface le tableau. Il n'y a plus rien sur le tableau. Et si quelqu'un vous demande, mais qu'est-ce qu'il y avait écrit sur ce tableau? Il n'y a rien d'écrit sur ce tableau. Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit sur ce tableau? Je ne sais pas. Il faut bien comprendre la gravité du secret de confession. Donc l'État n'a aucune autorité, évidemment, pour obliger un prêtre à violer le secret de confession. À tel point que c'est évident que si un prêtre était obligé de violer le secret de confession par la loi, ben plus personne ne se confesserait à lui, c'est évident. C'est un certain péché. Alors, voyons un petit peu le secret de confession. Alors, le prêtre est-il tenu en toutes circonstances de cacher les péchés qu'il a connus sous le secret de confession? Bon, la réponse est oui. Que le prêtre se garde de trahir par parole ou signe ou de quelque façon que ce soit le pécheur quel qu'il soit. Même pour sauver une vie humaine. Hein? Même pour sauver des tas de gens, vous n'avez jamais le droit d'utiliser le secret de confession. Il y a des cas douloureux. Dans les années 50, sous Pape Pie XII, il y avait malheureusement le Parti communiste qui avait infiltré des prêtres, infiltré des séminaristes communistes dans les séminaires pour en faire des prêtres qui puissent utiliser après leur sacerdoce pour essayer de détruire l'église de l'intérieur. Et souvent, ces prêtres, ces séminaristes sont devenus prêtres sans qu'évidemment les supérieurs du séminaire se doutent de la chose, ce qui cachait très bien leur jeu. Et il y a eu quelques cas de séminaristes communistes donc, qui venaient faire leur confession générale avant la réception de leur sacerdoce, avant leur ordination sacerdotale, la veille, et bien ils venaient se confesser à leur confesseur habituel, et il y en a qui, à ce moment-là, ont avoué à leur confesseur, au confessionnal, en disant « Mon père, je tiens à vous dire que j'ai été envoyé au séminaire par le Parti communiste, je vais être ordonné prêtre demain, et je suis ordonné prêtre validement, mais j'ai l'intention d'utiliser mon sacerdoce pour détruire l'église de l'intérieur. » Eh bien, le confesseur ne peut rien dire. Il ne peut en aucun cas aller prévenir le supérieur du séminaire de ce qui se passe. Il est tenu par un secret total de la confession. Ça c'est important, surtout pour les jeunes filles par exemple, ou les femmes. En général, elles nous disent « Monsieur l'abbé, j'ai honte de vous dire telle chose parce qu'après vous allez me faire la tête. » Mais non, parce qu'après la confession, j'ai pas le droit d'utiliser ce que je sais en confession. « Oui, mais monsieur l'abbé, au fond de vous-même, il y aura toujours quelque chose qui montera contre moi, vous ferez la tête d'une certaine façon. » Non, je n'ai jamais le droit d'utiliser quoi que ce soit que je sais par la confession, quoi que ce soit relatif au péché bien sûr, que je sais par la confession, même pour sauver ma propre vie ou sauver la vie d'autrui. Bon, il est évident que si, je ne sais pas moi, une personne me dit au confessionnal qu'elle a 45 ans, bon, ben, si je révèle après qu'en parlant de quelqu'une autre personne, cette personne a 45 ans, ce n'est pas un viol de secret de confession, parce que le fait qu'elle ait 45 ans n'est pas matière à confession. Donc, ce que l'on sait sur le secret de la confession est comme ignoré, car on ne le sait non pas en tant qu'homme, mais en tant que représentant de Dieu. Donc, si on vous pose une question, si on pose une question à un prêtre sur quelque chose qui relève du secret de confession, le prêtre peut dire et doit dire, je ne sais pas. C'est-à-dire, je ne sais pas de science communicable. J'ai rien à vous dire sur ce sujet, je ne sais pas. Bon. Alors, le secret de confession s'étend-il à d'autres choses qu'à l'objet même de la confession ? Donc, le secret de confession ne s'étend, dit saint Thomas, qu'aux aveux qui sont objets de la confession sacramentelle. Bon, il y a parfois des gens qui vous racontent leur vie au confessionnal. Bon, mais c'est évident que des choses matérielles qu'on vous a dit ne regardent pas le secret de confession. Cependant, ordinairement, le prêtre garde un secret naturel, j'irai, sur tout ce qui lui est dit par la confession. C'est important aussi de comprendre ces choses-là, par exemple, quand on confesse à la suite de personnes d'une même famille. Bon, par ça, je confesse madame, par exemple, qui me dit « Monsieur l'abbé, j'ai un gros problème avec mon fils qui a 16 ans, il attend en ligne derrière moi pour la confession. Monsieur l'abbé, il y a tel et tel problème important avec lui, voilà ce qui se passe, est-ce que vous pourriez lui en parler ?» Si elle me dit ça pendant la confession, je peux rien faire. Donc il faut que je lui demande l'autorisation. M'autorisez-vous à utiliser ce que vous venez de me dire concernant votre fils quand je confesse votre fils? À ce moment-là, je peux l'utiliser. Alors, certaines choses, cependant, qui ne sont pas l'objet de la confession sacramentelle, peuvent tomber sous le secret de la confession en tant que la révélation pourrait dénoncer le pécheur ou le péché. Néanmoins, il faut éviter avec le plus grand soin ces indiscrétions, tant à cause du scandale qu'à raison de l'inclination que leur habitude peut développer en nous. Il faut être extrêmement prudent dans ce domaine pour le prêtre. Cependant, je tiens à préciser, parce que ça, j'ai plusieurs fois des histoires dans ce domaine-là, le pénitent n'est pas tenu au secret par rapport au conseil qu'il a reçu du prêtre. Donc le pénitent a le droit de divulguer, qu'il veut, s'il y a une raison proportionnée, certains conseils qu'a pu lui donner le prêtre au confessionnal. Mais le prêtre, lui, est tenu par tout ce qu'il sait par mode de confession. Il y a eu un cas comme ça, je crois que c'était au 19e siècle. On nous l'a expliqué au séminaire d'une personne, un jeune prêtre, donc qui vient d'être ordonné prêtre, et qui, après, était dans une réunion de prêtres, et qui a été très imprudent. Il a dit à ses confrères, la première personne que j'ai entendue en confession depuis que je suis ordonné prêtre, eh bien, c'était un cas spécial, un cas réservé. Et puis, 5 minutes plus tard, quelqu'un vient interrompre la réunion de ses prêtres, un laïc, et qui salue les prêtres, et qui dit au prêtre, jeune prêtre qui vient d'être ordonné, j'étais très heureux d'avoir été votre premier pénitent, monsieur l'abbé. C'était un viol indirect du secret de confession. Donc ce prêtre a dû être envoyé immédiatement loin de tout pour rattraper le scandale qu'il avait indirectement et involontairement donné. Donc il ne faut pas se prêter facilement à recevoir des confidences au confessionnal. Bon. Si cependant on l'a fait, on est tenu par sa promesse à garder le secret de la même façon que si l'on avait reçu la confidence en confession, bien qu'on ne l'ait pas reçu sous le secret sacramentel. Ça c'est pour les personnes qui disent, monsieur l'abbé, je voudrais vous dire quelque chose dans votre bureau, mais j'aimerais que ce soit sous secret total, comme le secret de confession. Bon, si le prêtre accepte, à ce moment il y a la même règle pour ce péché, cette chose-là. Cependant, c'est parfois un peu imprudent d'accepter ce genre de choses. Moi, j'avoue que j'aime pas beaucoup faire ça. Je garde ordinairement un secret naturel sur ce que me disent les gens qui ne regardent pas les autres personnes. Alors, article 3 de la question 11. Le prêtre est-il seul tenu au secret de la confession ? Alors, saint Thomas répond. Le prêtre seul est tenu au secret de confession. En fait, accessoirement, sont tenues au secret de confession toutes les personnes qui auraient pu entendre la confession volontairement ou involontairement. Bon, imaginez que vous êtes au confessionnal, vous accusez vos péchés, vous avez une voix qui porte beaucoup, puis des gens qui attendent dans la chapelle pour se confesser, ben, entendent certains péchés qui ont été dits par cette personne, malheureusement. Quand ça m'arrive au confessionnal et j'ai une personne qui parle trop fort, tout de suite je lui dis chut, parlez moins fort. Il y a des personnes qui ont une voix qui porte beaucoup et surtout dans les petites chapelles, c'est vite fait d'entendre le secret de confession. Et il est évident que dans un cas de ce genre, la personne qui involontairement a entendu un péché en confession d'une autre personne est tenue par le secret sacramentel. Alors, comme on peut, sans être prêtre, avoir en cas de nécessité, quelque part à l'exercice du pouvoir des clés, on participe de même, en pareil cas, à l'obligation du secret sacramentel, et on est tenu de le garder, bien qu'à proprement parler, il n'y ait pas secret sacramentel pour celui qui n'est pas prêtre. Les secrets de ce genre, par exemple aussi, pour des médecins, on appelle ça le secret professionnel, secret médical, eh bien, un médecin est tenu de garder secrètement des choses qu'il peut savoir sur la santé morale ou mentale de son pénitent, de la personne qui est venue se faire soigner par lui. Alors un prêtre peut-il, avec la permission du pénitent, révéler à une autre personne le péché qu'il connaît sous le secret de la confession? Alors, on a déjà un petit peu répondu à cette question. Le pénitent peut par lui-même révéler le péché qu'il a commis, il peut donc aussi le faire par son confesseur. Le confesseur en pareil cas ne viole pas le sceau de confession en parlant de ce péché, mais il doit prendre alors des précautions pour ne pas scandaliser en donnant à penser qu'il viole le secret sacramentel. Bon, quand ça m'arrive de devoir faire des choses comme ça, je le dis tout de suite à la personne. Je dis, monsieur Intel m'a autorisé à vous dire que... Et j'explique la chose. Pour éviter justement le scandale des faibles. Cependant, il faut faire très très attention dans ce domaine. Alors, Nous continuons dans ces explications sur le secret de confession. Article 5 de la question 11. Le confesseur peut-il dire ce qu'il sait par la confession quand il le sait aussi par ailleurs? Alors ça, c'est parfois une difficulté qu'on rencontre, surtout dans les écoles. Je vais donner un exemple, vous allez comprendre pourquoi saint Thomas en parle. Ça m'arrivait quand j'étais dans les écoles, au début de mon sacerdoce, en 79 et 80, j'étais dans une école à l'étoile du matin, près de Strasbourg, et je m'occupais d'enfants, donc, et il m'arrivait souvent de surveiller les récréations. Bon. Eh bien, parfois, vous voyez des bêtises que faisaient les enfants, il m'est arrivé, ça pouvait arriver, que je vois un gros péché commis par un enfant. Et l'enfant qui me regarde à ce moment-là comprend que je l'ai vu. Donc, qu'est-ce que faisaient certains enfants, certains petits malins? Ils venaient me voir tout de suite en me disant, monsieur l'abbé, est-ce que je peux me confesser, s'il vous plaît? Bon, je répondais toujours la même chose, je vais vous confesser, mais je dois, attendez-moi confessionnal, j'arrive dans 5 minutes, je dois d'abord voir monsieur le directeur, j'ai quelque chose à lui dire. Donc j'allais voir le directeur, je lui expliquais ce que j'avais vu, puis j'allais confesser l'enfant. Bon, c'est limite de ce qu'on a le droit de faire, parce que c'est quand même des domaines assez dangereux. Bon, mais pourquoi l'enfant faisait ça? Parce qu'il avait compris que s'il me disait quelque chose, je ne pouvais plus rien dire, parce que j'étais lié par un secret de confession. Cependant, strictement parlant, un prêtre a le droit de parler de quelque chose qu'il sait hors de la confession. Cependant, s'il le sait aussi au confessionnal, enfin personnellement, moi j'ai toujours suivi comme règle, si je sais quelque chose hors du confessionnal et dans le confessionnal, je m'abstiens d'en parler à l'extérieur, même si je le sais à l'extérieur. Alors voilà ce que dit saint Thomas. On n'est pas tenu au secret pour ce qu'on a entendu en confession quand on en a eu connaissance par ailleurs. Cependant, attention, il y a ce qu'on appelle un secret naturel. Un droit naturel, un secret naturel sur certaines choses, des choses qui ne se disent pas, qui sont des choses privées, qu'on n'a pas révélées au grand monde. On n'a pas le droit, si on tombe dans un péché, qu'on appelle un péché de médisance. Péché de médisance, c'est révéler quelque chose qui est vrai, quelque chose de mal commis par le prochain, qui est vrai, mais sans une raison proportionnée. On a pas le droit de révéler les péchés d'un autre sans une raison proportionnée. Une maman aurait le droit, par exemple, de dire à son petit garçon de 5 ans, à l'école, je ne veux pas que tu joues avec tel garçon, parce que c'est un petit voyou, et que si tu joues avec ce garçon, tu vas devenir un voyou toi-même. Donc je ne veux pas te voir jouer avec lui pendant la récréation. Elle a le droit de dire ça si c'est vrai. D'accord? Donc, pour éviter le scandale, on doit s'abstenir de parler de pareils sujets à moins d'urgentes nécessités. Il faut faire très très attention dans ce domaine, surtout qu'il y a des petits malins qui cherchent, ça j'ai vu ça, hein, des petits malins qui cherchent à provoquer le prêtre pour qu'il viole le secret de confession, hein, pour pouvoir après l'accuser. Alors, parlons maintenant de la satisfaction. Satisfaction ou réparation, c'est la même chose. Alors, c'est la question 12 du supplément. Article 1 de cette question 12, la satisfaction est-elle une vertu ou un acte de vertu? Voilà ce que dit saint Thomas, la pénitence est une vertu, c'est donc que la satisfaction est également un acte de la vertu. Satisfaction et réparation sont des termes synonymes. Tout acte qui implique un juste milieu est donc formellement un acte de vertu. In medio stat virtus, c'est-à-dire au milieu, entre les deux excès, se tient la vertu. Toutes les vertus morales, j'ai déjà expliqué souvent, les vertus morales sont des vertus qui se tiennent sur une crête entre deux excès. Vertu de prudence, par exemple, vertu de justice, de force, de tempérance, on peut pratiquer trop la force ou pas assez la force. Donc il faut se tenir juste au milieu, c'est là où intervient la vertu de prudence qui va régler un peu les choses avec le don de conseil et le don de sagesse. Alors, article 2, là je passe assez vite sur ces choses qui sont faciles. La satisfaction est-elle un acte de justice? Et c'est précisément, dit saint Thomas, ce que fait la satisfaction qui établit l'égalité entre la pénitence et l'offense précédente. La satisfaction est donc un acte de justice. Par la satisfaction, on rétablit en quelque sorte la justice qui a été violée. Par exemple, imaginez quelqu'un qui s'accuse d'un vol. Bon, ben, je vais lui donner comme pénitence, évidemment, de rendre le produit du vol. Ce qu'on appelle la satisfaction. Satisfacere. En faire assez pour réparer l'offense faite à Dieu et l'offense faite au prochain. Donc l'adverbe satis, assez, exprime donc une égalité de proportion. La pénitence est donc d'une certaine façon une espèce de justice vindicative. Nous voyons par là que la satisfaction qui établit dans celui qui l'a fait une égalité par rapport à l'offense précédente est une œuvre de justice quant à cette partie de son opération qu'on appelle pénitence. Donc la justice exige de rendre à chacun ce qui est dû, à Dieu d'abord, mais aussi au prochain. Alors, ensuite, saint Thomas va analyser la définition traditionnelle de la satisfaction. Donc, il y a plusieurs définitions. Il donne d'abord une définition de saint Augustin qui dit « Satisfaire, c'est extirper les causes des péchés et ne plus donner entrée à leurs suggestions. » Saint Anselme dit « Satisfaire, c'est rendre à Dieu son dû honneur, l'honneur qui lui est dû. » La satisfaction, qui est l'acte de la justice infligeant une peine, est donc une médecine qui tout à la fois guérit les plaies des fautes passées et préserve des futures. Donc l'homme qui est satisfait donne compensation pour le passé et se garde pour l'avenir. Il rétablit la justice qui a été violée. Il rétablit le contact, en quelque sorte, entre l'homme et Dieu. Donc la satisfaction est une compensation, selon l'égalité de la justice, pour l'injure faite précédemment. Donc, satisfaire, c'est rendre son dû d'honneur en considération de la dette qui suit la faute commise. La satisfaction est différente selon les personnes que vous avez offensées. Si vous êtes ce soldat, vous avez injurié le général, c'est pas la même chose que d'avoir injurié le caporal ou un camarade de deuxième classe, soldat de deuxième classe. Si vous avez injurié le général, c'est la même injure, le même mot d'injure utilisé contre le général ou le caporal ou le soldat de deuxième classe, mais les conséquences sont pas les mêmes. Parce que le général a plus d'autorité. Donc, en injuriant le général, vous avez commis un péché plus grave qu'en injuriant un camarade de deuxième classe. Donc, satisfaire, c'est bien rendre son dû d'honneur en considération de la dette qui suit la faute commise. Donc, quelqu'un qui a, pour reprendre l'exemple que j'ai donné, si quelqu'un a injurié un général, bon, ben, il va faire la prison. Par contre, s'il a injurié son camarade de chambray, bon, ben, ils vont régler ça entre eux et il n'y aura pas besoin de prison pour autant. Donc deux points sont touchés dans la définition de la satisfaction, à savoir premièrement l'extirpation des causes du péché, deuxièmement la résistance au libre arbitre au péché proprement dit. C'est-à-dire, pour satisfaire pleinement, il ne faut pas simplement accuser le péché, il faut aussi rétablir la justice et prendre les moyens pour ne pas retomber, en évitant les occasions prochaines volontaires de péché grave. Alors, saint Thomas note sur les causes prochaines de péché. Il parle d'abord des causes extérieures, qui sont les occasions de péché qui nous viennent du dehors, comme le jeu, les mauvaises compagnies et autres dangers du même genre. Voilà les causes que nous pouvons supprimer dès cette vie par la satisfaction, bien que le foyer de concupiscence, qui est la cause éloignée du péché actuel, ne puisse pas en cette vie être totalement enlevé par la satisfaction, mais seulement diminué. La confession, même très fréquente, ne va pas enlever la concupiscence dans votre âme. Vous allez conserver la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair, la concupiscence de l'orgueil de la vie. Bon, cependant, par la multiplication des confessions, la fréquence des confessions, eh bien, vous allez de plus en plus être plus fort pour lutter contre ces tentations, à condition que vous éloigniez soigneusement des occasions prochaines volontaires de péché grave. Bon, il y a suffisamment de tentations qui arrivent tout seules, par les occasions nécessaires. Il n'y a pas besoin d'aller en chercher. Et donc, méfiez-vous évidemment des occasions volontaires. C'est évident que si vous allez passer comme adolescent vos vacances sur les plages de la Côte d'Azur, en plein cagnard, alors qu'il fait très chaud, qu'il y a toute une série de femmes à moitié nues, complètement nues à côté de vous, eh bien, vous allez avoir des tentations terribles contre la pureté. Dans un cas comme cela, vous êtes tenu de changer de lieu de vacances, tout simplement, de ne pas jouer avec le feu et ne pas tomber en péché par présomption. Alors la pénitence dans l'intention première de son institution, dit saint Thomas, regarde surtout le passé. Cependant, par voie de conséquence, elle regarde aussi l'avenir, en tant qu'elle est un remède de préservation, et il en va de même de la satisfaction. Donc dans une satisfaction faite à Dieu, l'amendement du pécheur pour l'avenir est bien plus important que la compensation pour le passé. Il faut surtout vérifier que vous n'allez pas recommencer avec la grâce du bon Dieu. Alors attention, si vous savez, vous accusez votre faute, et vous dites, je suis très faible, j'ai très peur cette semaine que je vais retomber. Est-ce que vous prenez les moyens pour ne pas retomber? Ben, monsieur l'abbé, je fais attention, j'ai mis l'occasion de pécher, je prie, je fais pénitence, mais j'ai peur de retomber. Eh bien, si vous avez le malheur de retomber, revenez vite vous confesser, et avec la grâce du bon Dieu, vous ne retomberez pas. Voilà. Alors, voyons un peu les possibilités, la possibilité de la satisfaction. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible pour l'homme de satisfaire à Dieu et de satisfaire pour le prochain? Alors, c'est une question, un article important, l'article 1 de la question 13. L'homme peut-il offrir satisfaction à Dieu? Voyons donc ce que dit saint Thomas d'Aquin. La satisfaction des préceptes. Faite de dignes fruits de pénitence. Il est donc possible d'offrir satisfaction à Dieu. Satisfaction, dans ce sens-là, a bien le terme de réparation. Donc, est-ce qu'il est possible de réparer la faute commise? Est-ce qu'il n'est pas possible de rétablir la justice de Dieu qui a été offensée? Alors, en soi, par la propre force, non. Pourquoi? Parce que la justice, quand on offense Dieu, on offense un Dieu infini. Donc, une faute contre un Dieu infini, a une valeur infinie, malheureusement. Et donc, une créature ne peut pas, par ses propres forces, réparer une erreur infinie, une erreur, un péché commis contre un Dieu infini. Bon. Donc, il faut que le bon Dieu s'en mêle. Mais grâce au mérite acquis par notre Seigneur Jésus-Christ par sa passion, en utilisant justement ces fruits de la passion, on peut offrir satisfaction et réparation à Dieu. L'homme devient le débiteur de Dieu à double titre, à raison des bienfaits reçus et aussi à raison des péchés commis. Et donc, il faut réparer dans toute la mesure du possible. L'amitié n'exige pas l'équivalence, mais la possible. Il y a d'ailleurs encore en cela une certaine égalité, une égalité de proportionnalité, car entre ce que nous devons à Dieu et Dieu lui-même, il y a la même proportion qu'entre le tout de ce que nous pouvons et ce même Dieu. C'est ainsi qu'est conservé le formel de la justice. Donc, il n'est pas possible pour une créature de réparer l'offense faite au Créateur par ses propres forces. Donc, il faut que le bon Dieu intervienne. L'homme ne peut pas offrir satisfaction à Dieu si le mot satis, assez, satis facere, en faire assez, si ce mot satis implique une égalité absolue de valeur. Mais il le peut si la satisfaction n'implique qu'une égalité de proportion, et puisque cela suffit pour qu'il y ait justice, cela suffit aussi pour qu'il y ait satisfaction à cause de la miséricorde, de la bonté infinie du bon Dieu. Dieu se contente d'une petite satisfaction à condition qu'il voit la bonne volonté et surtout la fuite des occasions de péché. Et rappelez-vous le Saint Curé d'Ars, j'ai déjà donné cet exemple je crois, Saint Curé d'Ars qui parfois entendait des gros pécheurs et donnait une petite pénitence. Alors le pécheur s'étonnait, mon père vous ne me donnez qu'une petite pénitence. Le reste, disait le Saint Curé d'Ars, je m'en occupe moi-même. C'est un peu la même chose avec le bon Dieu. Mon Dieu, vous me demandez qu'une petite chose en réparation d'un péché infini. Et pourquoi? Parce que je suis mort pour toi. Et à cause de ma mort sur la croix pour toi, mon fils, je répare ce péché. Alors, de même, dit saint Thomas, que l'offense a une certaine infinité à cause de l'infini de la divine majesté, ainsi la satisfaction reçoit-elle aussi une certaine infinité de l'infini de la divine miséricorde, en tant que cette satisfaction est informée par la grâce qui fait agréer la compensation possible à l'homme. Une très belle phrase. Donc, saint Thomas nous parle de l'infinité de la divine miséricorde. La miséricorde divine est encore plus grande que sa justice. Donc, du moment que le bon Dieu voit dans une âme un désir de changer, que le péché a été correctement accusé, que l'offense essaye d'être réparée au niveau de l'homme autant qu'il que faire se peut, le bon Dieu pardonne. Le péché, quant à son mouvement d'aversion, peut être réparé par la satisfaction en vertu du mérite du Christ qui a été d'une certaine manière infini. Ces mérites du Christ, comment le bon Dieu nous applique les mérites de Christ, les mérites du Christ sont appliqués par la passion. Et donc c'est par la Sainte Messe surtout que le bon Dieu applique les mérites de sa passion, puisque la Sainte Messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Donc le péché originel, bien qu'il soit moins péché que le péché actuel, est cependant un mal plus grave, parce qu'il est une infection de la nature elle-même. C'est pour cela qu'il ne peut, comme le péché actuel, être expié par une satisfaction purement humaine. C'est pour ça que pour le péché originel, c'est un cas un peu spécial. Le péché originel n'est pas un péché actuel, c'est un péché de nature. Cependant, c'est un péché qui nous empêche de la montée au ciel. Donc il a fallu que le bon Dieu s'en mêle encore plus directement. Cette fois-ci, c'est un sacrement spécial pour cela, qu'on appelle le sacrement de baptême. Article 2 de la question 13. Peut-on satisfaire pour autrui? Est-ce qu'on peut faire pénitence pour d'autres personnes? Il semble, dit saint Thomas, qu'on puisse porter pour un autre le fardeau de la pénitence qui lui a été imposée. En fait, c'est un conseil de saint Paul aux Galates. Aidez-vous mutuellement à porter vos fardeaux. Et voilà ce que dit saint Thomas pour expliquer. La peine satisfactoire a deux buts. L'acquis d'une dette et le remède qui nous fait éviter le péché. En tant qu'elle doit donner un remède contre le renouvellement du péché, la satisfaction d'un pénitent ne peut pas servir à un autre. Le jeûne de l'un ne dompte pas la chair de l'autre. De même, les bonnes actions du premier ne donnent pas au second l'habitude de bien agir. C'est pas parce que quelqu'un fait pénitence pour vous que ça veut dire que vous n'avez plus à éviter l'occasion de péché. Cependant, en faisant pénitence pour vous, votre prochain peut vous obtenir certaines grâces particulières pour que vous soyez plus fort pour lutter contre les occasions de péché. S'il s'agit de l'acquis d'une dette, un homme peut satisfaire pour un autre, à la condition qu'il soit en état de charité, en sorte que ses œuvres soient satisfactoires. N'oubliez pas que pour être satisfactoire, une œuvre doit être faite en état de grâce. Si vous êtes en état de péché mortel, vous n'avez aucune possibilité de satisfaire pour vos péchés. Quelqu'un qui est dans l'état de péché, qui veut rester dans l'état de péché, qui fait une mauvaise confession, ne satisfait absolument pas la justice divine. D'accord ? Mais, s'il est en état de grâce, il va acquérir des mérites. On ne peut acquérir ses mérites qu'en état de grâce. Quelqu'un qui n'est pas en état de grâce ne peut pas acquérir de mérites. C'est pourquoi on ne doit pas permettre à quelqu'un de faire pénitence pour un autre, à moins que ce principal débiteur n'ait des défauts corporels qui le rendent incapable de supporter cette pénitence ou une faiblesse spirituelle qui le rende peu dispo à supporter la pénitence. Moi, j'ai connu des mamans, des épouses qui, après la confession générale de leur époux, le époux dit « Ah, on va donner telle pénitence à faire, c'est beau trop de douloureux, je ne vais pas arriver à la faire. » Et bien, l'épouse aide son mari à faire la pénitence et éventuellement en prend une partie sur elle quand elle le peut. Les dispositions d'une âme n'est un point modifié par l'acte méritoire d'une autre. Cet acte ne lui mérite pas de mérite récompense essentielle, à moins qu'il n'ait une valeur infinie, comme c'est le cas pour le Christ, dont le mérite suffit à conduire par le baptême les enfants à la vie éternelle. Donc, les mérites du Christ suffisent pour tous les hommes, à condition qu'ils soient unis à Dieu par la vertu de charité. Avançons dans l'acquis de la dette. Pour le péché, c'est la quantité de la peine expiatrice qui compte. Dans les mérites, au contraire, c'est son principe radical, la charité. Pas de charité, pas de mérite. Bon. Alors, c'est pour ça que le prêtre donne une pénitence à faire, et cette pénitence, qu'on appelle la pénitence sacramentelle, doit être faite au plus tôt après la confession. Alors, voyons maintenant les qualités de la satisfaction. Bon, on va commencer cette question 14. Les qualités de la satisfaction. Vous voyez que saint Thomas va bien dans tous les détails. Peut-on satisfaire pour un seul péché séparément? Donc, je rappelle la définition de la satisfaction, selon maître des sentences, extirper les causes des péchés et ne plus accorder à entrer à leurs suggestions. Donc, extirper les causes des péchés et ne plus accorder entrée à leurs suggestions. C'est donc ce qu'on appelle la satisfaction. Alors, les péchés, dit saint Thomas, ne peuvent pas être évités sans la grâce. Il s'ensuit que tout péché enlevant la grâce, on ne peut pas satisfaire pour un seul séparément. Il faut, si vous regrettez un seul péché, mais vous ne regrettez pas les autres péchés mortels, votre satisfaction est nulle. Votre absolution reçue est également nulle. Donc, puisque tout péché enlève la grâce, vous ne pouvez pas regretter un seul péché mortel sans regretter aussi tous les autres péchés mortels. Et donc, si vous satisfaisez pour un seul péché mortel sans vouloir satisfaire pour les autres, votre confession et votre réparation sont nulles. L'offense ne disparaît qu'avec le rétablissement de l'amitié. Et tant qu'il reste un obstacle à ce rétablissement de l'amitié, il ne peut pas y avoir de satisfaction, même entre humains. En conséquence, tout péché, c'est important, tout péché mettant obstacle à l'amitié de charité qui unit l'homme à Dieu, tout péché mettant obstacle à l'amitié de charité qui unit l'homme à Dieu, il est impossible que l'homme satisfasse pour un seul péché en en retenant un autre, pas plus que celui-là ne donnerait satisfaction qui, tout en se prosternant pour demander à son frère pardon de souffler qu'il lui a donné, lui en donnerait en même temps un pareil. Bon, explication très belle de saint Thomas d'Aquin. Il faut être logique avec soi-même. Quand on veut réparer, on répare sur toute la ligne jusqu'au bout. On se contente pas de réparer en partie, sinon ça vaut rien. Il faut avoir le désir de réparer autant que faire se peut, autant que ce c'est possible. Alors peut-on, sans être en état de charité, satisfaire pour des péchés déjà remis? Donc c'est toujours la même réponse. Elle est sans valeur, la satisfaction faite en état de péché mortel. Donc si vous êtes en état de péché mortel, tout ce que vous faites ne vaut plus rien devant Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester en état de péché mortel et se confesser au plus vite, ne pas attendre. Ça me désole parfois de voir des gens qui ont la possibilité de se confesser et qui attendent parfois des mois et des mois avant de se confesser. Oui. Et bien ils gaspillent beaucoup de temps, ils gaspillent beaucoup de grâce parce que justement ils ne se confessent pas alors qu'ils ont la possibilité. N'oubliez pas que toute satisfaction faite en état de péché mortel est nulle, n'a aucune valeur. Il faut, dit saint Thomas, dans la satisfaction, qu'une fois l'amitié rétablie, l'égalité de justice, dont le contraire supprime l'amitié, soit aussi rétablie. Il faut donc que, même après la rémission de l'offense par la contrition, les œuvres satisfactoires soient agréées de Dieu, qualité qu'elles reçoivent de la charité. S'il n'y a pas de charité, les œuvres satisfactoires ne peuvent pas être agréées de Dieu. Il s'ensuit que les œuvres faites sans la charité ne sont pas satisfactoires. Ça, c'est le résumé de tout ce qu'a dit saint Thomas sur ce sujet. Il s'ensuit que les œuvres faites sans la charité sont informes, c'est-à-dire ne sont pas satisfactoires. Alors, qu'est-ce qu'il me reste encore un petit peu de temps? Oui, je vais en faire encore un article, je pense. La satisfaction, article 3, satisfaction faite en état de péché mortel, prend-elle de la valeur quand revient la charité? Ce qu'on appelle la reviviscence. Alors voyons un petit peu ça. Voilà ce que dit saint Thomas. Les œuvres faites sans la charité n'étant pas satisfactoires parce qu'elles étaient œuvres mortes. Or, les œuvres mortes ne deviennent pas vivantes par la pénitence et donc ne sont pas satisfactoires. Ça veut dire qu'on ne peut pas... Si une œuvre est faite en état de péché mortel, eh bien, elle ne vaut rien pour la satisfaction. Il faut réparer, d'abord en retrouvant l'état de grâce, retrouvant la vertu de charité. Une fois que la vertu de charité est récupérée, à ce moment-là, on peut utiliser les œuvres pour diminuer notre peine de purgatoire. La charité qui survient ne pouvant pas faire agréer les œuvres quant à leur valeur méritoire, ne le peut pas non plus quant à la valeur satisfactoire. La charité travaille sur les œuvres que vous faites dans cet état, pas travailler sur les œuvres que vous faisiez avant, lorsque vous étiez en état de péché mortel, c'est-à-dire quand vous n'aviez pas la charité. Donc saint Thomas conclut en disant que la contrition diminue d'autant plus la peine qu'elle est plus grande, et qu'en multipliant ses bonnes œuvres, le pécheur, même en état de péché, se dispose mieux à la grâce de la contrition. Et il est donc probable qu'en ce faisant, il diminue sa dette de peine en se préparant à une contrition meilleure, ce dont le confesseur devra discrètement tenir compte lui imposant une moindre pénitence parce qu'il la trouve mieux, il le trouve mieux disposé. Donc une œuvre en état de péché mortel peut disposer à la grâce de la contrition. Mais une œuvre en état de péché mortel n'est pas méritoire. J'ai déjà expliqué. Et comme tous ces détails sont importants, on voit d'ailleurs une autre chose qui est très importante, c'est que dans tous ces textes, on voit très bien à quel point saint Thomas d'Aquin, même dans sa jeunesse, puisque ses écrits sont les écrits de jeunesse, avait déjà était déjà très très proche du bon Dieu. Donc, nous continuerons cette question 14 la prochaine fois avec un article très important, l'article 4. Les œuvres faites en dehors de l'état de charité méritent-elles quelque bien, au moins un bien temporel? Ça, c'est pour répondre à ceux qui disent, comment se fait-il qu'il y a des gens qui vivent dans le péché mortel jusqu'au cou et qui font cependant du bien, un bien naturel? Est-ce que ça leur sera compté? Donc, saint Thomas va répondre à cette question. J'ai du mal à lire mon horaire sur le magnétophone que j'utilise. Oui, donc c'est... Ça fait 1 heure, je vais arrêter là. Nous ferons cet article, nous expliquerons cet article 4, si Dieu veut, vendredi prochain. Je termine par une prière.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.